Ô Dieu notre Père, nous sommes heureux de nous retrouver en ce lieu où tu nous as déjà, dans le passé, béni tant de fois. Nous voulons crier à toi pour que, aujourd'hui, dès ces premiers moments, tu nous donnes ta grâce qui illumine nos yeux et nos cœurs pour que nous recevions tout ce que tu as à nous dire dans ta bonté, dans ta vérité, pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, mes amis, en cette année que le monde a appelé l'année internationale de la jeunesse, le Seigneur m'a mis donc à cœur d'étudier avec vous dans ce 16e camp Mahanaïm ce livre des Proverbes, où nous allons chercher à trouver réellement les enseignements du Dieu vivant. Quelqu'un me dira peut-être, mais que peut-on recevoir d'un livre qui a été écrit il y a quelques 1000 ans avant Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on peut recevoir en 1985 de valable et d'actuel, nous qui vivons, comme nous le rappelions hier, 15 ans avant l'an 2000. Ces proverbes, donc, datent de combien d'années? 3000 ans. D'autre part, les passages essentiels de ce livre, vous le savez, ont pour auteur un roi qui s'appelle Salomon, réputé certes pour sa sagesse, mais qui ne vécut pas les enseignements qu'il donna. Devenu vieux, vous connaissez son histoire, il transgressa les commandements de l'Éternel qu'il connaissait pourtant parfaitement. Eh bien, moi, il me semble au contraire qu'un tel livre nous sera utile à nous, justement, qui vivons dans un siècle qui connaît l'Évangile, et moins dans nos pays, où nous connaissons les paroles du Christ, et où pourtant nous ne vivons pas toujours les enseignements divins. En ouvrant le livre des Proverbes, il convient donc de dire d'emblée qu'il y a ici plus que Salomon, comme nous le rappelions l'année dernière. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre et qu'il enseignait, disait dans le chapitre 12 de Matthieu, « Il y a ici plus que Salomon. » Et qui est ce plus que Salomon? C'est celui dont parlait Jean-Baptiste. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, et quelqu'un qui s'est manifesté et qui est venu sur la terre pour réaliser les proverbes de Salomon. Salomon n'a pas vécu ce qu'il a enseigné, mais quelqu'un est venu du ciel et a pris au sérieux, en tant qu'homme, l'enseignement de Salomon, qui ne venait pas du cœur de Salomon, mais qui venait du cœur de Dieu, et Jésus réellement à réaliser dans sa vie de tous les jours les enseignements que nous trouvons dans les proverbes. Et tout l'enseignement de ce livre, j'aime à le rappeler, préparait le peuple d'Israël à la révélation de la sagesse incarnée, à la venue de celui que l'apôtre Paul appelle le Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Le Christ lui-même est appelé la sagesse de Dieu. Nous croyons donc fermement que ce livre des Proverbes peut répondre aujourd'hui aux besoins de nos cœurs, aux besoins des cœurs de chaque campeur, de chaque campeuse, afin que les simples parmi nous deviennent sages et que ceux qui s'estiment déjà sages au milieu de nous augmentent encore leur savoir et acquièrent l'art, si j'ose dire ainsi, de se diriger dans la vie pratique. Mais voyez-vous, la difficulté qui se présentait à moi était de savoir comment je pourrais vous faire bénéficier le mieux de ces grandes leçons de ce livre qui contient combien de chapitres ? 31. Et combien de versets ? 915 versets. Et quel est le verset central ? Les Massorètes aimaient à compter cela. Le verset central du livre des Proverbes, c'est le verset 18 du chapitre 16. Et qu'est-il dit là ? Un enseignement qui est capital. L'orgueil va devant la ruine et l'esprit hautain devant la chute. David dit devant l'écrasement. Ça, c'est le verset central du livre des Proverbes. L'orgueil va devant la ruine et l'esprit hautain devant la chute. Alors, après avoir prié, j'ai compris que nous devions lire ce livre comme l'Esprit de Dieu nous l'a donné et comme nous lirions tout autre livre qu'on mettrait entre nos mains. Plus tard, si vous le voulez, vous pourrez toujours serrer, classer, approfondir les différents sujets que ce livre traite, comme l'a fait par exemple mon ami Alfred Kuhn dans son livre qui a paru sur les Proverbes et qui s'appelle « L'art de vivre selon Dieu » et que vous pouvez trouver à la CLC et dans les autres librairies. Il a classé tous les sujets les uns après les autres que traite le livre des Proverbes. Mais ce n'est pas ainsi que nous allons procéder. Nous allons lire le livre comme il a été donné par l'Esprit de Dieu. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Alors, ce matin, après ce message d'introduction générale, nous allons considérer les 6 premiers versets qui forment l'introduction de tout le livre et qui nous renseignent, premièrement, sur l'auteur principal du livre, qui est Salomon, le fils de David, roi d'Israël. Deuxièmement, sur le dessein et le but de ce livre. Et troisièmement, sur les personnes auxquelles il s'adresse. Alors, nous lisons ces versets. Il y avait aussi une difficulté, c'est que nous avons beaucoup de traductions et elles ne sont pas toujours exactes, toujours fidèles. Mais je crois que vous avez surtout avec vous, quelle Bible ? La Seconde 1910. Hein? Alors, pour ne pas brouiller les cartes, on prendra la Seconde 1910, quitte à corriger certains textes. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leur sentence. Nous nous arrêterons là ce matin. Je voudrais tout de suite vous donner quelques règles que nous allons suivre durant ces journées. Premièrement, nous chercherons à bien connaître le sens de tous les mots que nous rencontrerons. Je me suis aperçu que bien souvent, les gens lisent et ne comprennent pas le sens des mots. Alors, ils pensent avoir lu la Bible, mais ça ne leur fait aucun effet. C'est comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ça n'entre pas. Et Jésus lui-même le disait, avec chagrin, je sens que ma parole n'a pas d'accès auprès de vous. Sa parole, et c'était pourtant la parole de Jésus, ne pénétrait pas. La moitié du temps, les gens auxquels il s'adressait ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Alors, nous allons chercher à comprendre le sens des mots. Deuxième règle, nous lirons avec un cœur humble, avec un cœur d'enfant. Nous souvenons de ces paroles de Jésus, car pour moi, elles sont une condition pour être éclairés. Le Seigneur ne nous éclairera pas si on pense déjà tout savoir et tout connaître, et tout expliquer. Jésus disait, je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. Ne vous dites pas, oh, le livre des Proverbes, ça sera trop compliqué. Si vous avez un cœur d'enfant, vous comprendrez. Et si vous avez compris une vérité et que vous la mettez en pratique, le Seigneur vous donnera davantage de lumière pour que vous puissiez comprendre encore plus ces vérités qui vous seront précieuses et tellement utiles. Ce texte que je viens de vous citer, cette prière de Jésus, de louange de Jésus pour les voies de Dieu qui a voulu révéler cela non pas à une élite intellectuelle, à quelques leaders, mais aux petits-enfants, ça se trouve dans Matthieu 11, versets 25 et 26. Troisième règle, nous nous laisserons sans cesse interpeller par le texte. Et j'aimerais que vous la compreniez bien, cette règle, tout de suite, quand nous ferons une lecture, que ce soit le matin, quand vous serez dans vos ateliers, ou que ce soit le soir, en écoutant la parole, plus encore que le message, eh bien, vous vous poserez cette question, quel est le verset? Parce que, évidemment, tous les versets, peut-être, ne peuvent pas vous parler en ce moment, ils vous parleront dans une autre occasion. Mais vous vous demanderez, mais aujourd'hui, nous sommes, quel jour? Le 13 juillet, hein? Bien, aujourd'hui, dans ce que nous venons de lire, quel est le verset qui me touche, moi, qui m'interpelle, moi, qui me dit quelque chose à moi, dans ma situation, dans mes propres circonstances. C'est comme ça que vous allez manger cette parole. C'est comme ça que cette parole ne restera pas dans les couvertures du livre, mais viendront se fixer dans votre sensibilité. Et un jour, dans votre travail quotidien, tout à coup, le Saint-Esprit, qui est vraiment la mémoire du chrétien, va vous rappeler avec puissance ce texte des Proverbes qui sera comme une lumière à vos pieds et une lampe sur votre sentier. Vous saurez ce que vous devez faire par le Saint-Esprit qui vous rappelle une parole des Proverbes. Si aujourd'hui, vous vous laissez interpeller par le texte, quatrième règle, nous retiendrons chaque jour une parole précise pouvant nous enseigner, nous instruire, nous corriger et nous convainc. On aura besoin d'être corrigé, parce qu'il y a bien des choses que nous faisons, et que si nous avions lu les proverbes, nous ne ferions pas, ou nous n'aurions pas fait. Et maintenant, nous sommes souvent dans les conséquences de nos inconséquences. Si on avait eu la connaissance des proverbes, il y a bien des faux pas nous aurions évités. Alors, comprenons bien ce que dit l'apôtre Paul dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, versets 16 à 17, et nous dit que toute la parole est réellement inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger et nous convaincre. Il faut que vous ayez dans ces jours de laxisme où on pense que n'importe quoi est bon, eh bien, que vous ayez des convictions et que vous sachiez pourquoi telle chose vous ne la faites pas, telle parole vous ne la dites pas et pourquoi, au contraire, vous avez une parole de grâce, une parole de louange, même si le monde rit de vous entendre. Vous avez des convictions. Et quand on a des convictions, eh bien, mes amis, on peut traverser ce monde. Et on n'est pas ballotté par tout vent de doctrine. Cinquième règle, nous rechercherons à découvrir, comme je vous le disais déjà hier soir, un portrait de qui dans chaque chapitre ? Un portrait de Jésus. Puisque nous avons dit que c'était le plus grand que Salomon, c'était celui qui a vraiment vécu, qui a vraiment comme homme mis en pratique l'enseignement de ce grand roi d'Israël qui avait reçu beaucoup de connaissances mais qui, hélas, n'a pas vécu à la hauteur de ses lumières. Nous rechercherons la personne de Christ. Et voyez-vous, rechercher dans vos lectures de l'Ancien Testament la personne de Christ, c'est ce qui vous donnera toujours le goût de lire l'Ancien Testament. Vous découvrez là la vraie clé, hein. Jésus, le Seigneur de l'Ancien Testament est le même Seigneur que celui du Nouveau Testament. Il n'y a pas un Dieu qui serait jaloux, dur, cruel dans l'Ancien Testament et le doux Jésus du Nouveau Testament. Le même Dieu est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Éternel ou le Seigneur, souvenez-vous toujours que c'est le Seigneur avant son incarnation. Il était, comme l'a dit Jean-Baptiste, il était avant lui. Il était de toute éternité. Mais il s'est fait homme. Et c'est comme homme qu'il est venu après Jean-Baptiste. Mais il était avant Jean-Baptiste. Il n'est pas né de la chair, notre Seigneur. Il est venu en chair. Nous ne sommes pas venus en chair. Tandis que quand il est parlé de Jésus, il est venu en chair, c'est-à-dire il existait avant, dans l'éternité, avec Dieu. Il était Dieu. Et sa naissance, eh bien, a été la manifestation de Dieu en chair. Et il venait pour répondre à ce besoin que nous avions de connaître le Dieu inaccessible, le Dieu invisible. Une sixième règle, c'est que nous nous souviendrons que dans la pratique, les vérités générales qui sont exprimées dans les proverbes peuvent, comme toutes les autres règles, souffrir des exceptions de détails. Et ça, c'est très important. Il y a des principes généraux dans la Bible. Mais, dans les proverbes, par exemple, ces règles ne sont ni universelles, ni illimitées. Je vous donne un exemple. Dans Proverbe 10, verset 27, il est dit, « La crainte de l'Éternel accroît le nombre de jours. » Mais les ans des méchants, ou les années des méchants, seront retranchées. Ça, c'est un principe général. Et il y a là une réalité. Mais on constate que les exceptions abondent. Et que ces exceptions commencent avec le monde. Donnez-moi un exemple. Abel et Caïn. Hein? Voilà une exception. Abel, qui était le juste, est parti avant Caïn. Il a été retranché, au fond, avant Caïn, qui était le méchant. Donc, il y a des exceptions. Mais, d'une façon générale, eh bien, ça devrait être comme cela. Maintenant, je dirais que Saül et Jonathan sont aussi des exceptions. C'est-à-dire que l'ami de David et son père, qui était apostat, ont péri le même jour dans la même bataille. Donc, vous vous souviendrez qu'on peut trouver des exceptions aux règles, aux principes généraux qu'on trouve dans les proverbes. Ce n'est pas des contradictions. Il y a la règle, mais il y a l'exception. Et nous allons voir cela avec plusieurs exemples. C'est la septième règle, la force et l'importance, la valeur des maximes de Salomon ressortiront surtout pour nous de leur comparaison avec les exemples de l'Écriture. Et voyez-vous, ce sera le plus fameux commentaire des proverbes. Trouvez toujours des exemples dans les autres pages des Écritures, des exemples concrets qui viendront illuminer une maxime ou un proverbe de Salomon. Nous prendrons donc tous nos exemples dans la Bible. Ce sont donc des lois générales qui se comprennent mieux par des applications particulières. Alors, revenons maintenant à nos premiers versets de ce chapitre 6, le chapitre 1er, les 6 premiers versets. Donc, nous nous occupons de l'auteur. J'aimerais que vous soyez bien au courant de cet auteur. Il est dit « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël ». Mais je dirais tout de suite que dans la Bible hébraïque, le livre des Proverbes fait partie de ce qu'on appelle les écrits avec les psaumes et le livre de Job. La classification que nous avons dans nos Bibles françaises n'est pas exacte. Le livre des Proverbes dans la Bible hébraïque est classé dans ce qu'on appelle les écrits et qui comporte les psaumes et le livre de Job, des livres donc poétiques. Mais que veut dire le mot proverbe dans nos traductions françaises? Un proverbe, c'est une vérité d'expérience. C'est un conseil de sagesse pratique et populaire exprimé sous une forme raccourcie, généralement imagée et figurée. Le mot proverbe dans la Bible vient d'un mot hébreu, machal, c'est-à-dire pensée ou maxime, reposant sur les expériences de la vie quotidienne. Le sens du mot proverbe, ça vient d'un mot hébreu, donc machal, M-A-C-H-A-L, c'est-à-dire pensée, maxime, qui repose sur les expériences de la vie, sur le quotidien. Et c'est pourquoi André Chouraki, notre ami juif de Jérusalem, et qui a traduit toute la Bible en français, quoique étant juif, il a traduit aussi le Nouveau Testament, a mis comme, au lieu de mettre les proverbes, il a mis simplement comme en tête exemple.
parce que c'est ça, vraiment. Les proverbes, ce sont des exemples. Exemple à imiter ou à fuir. Voilà une définition qui me paraît assez claire. Les proverbes, ce sont des exemples qui sont à imiter ou à fuir. C'est le sens premier de ce livre magistral dont nous vous avons proposé l'étude au cours de ce 16e camp Mahanaïm. Alors ce livre qui est devant nous est attribué au roi Salomon. Cependant, comme nous le verrons au cours de ce camp, à partir par exemple du chapitre 22, verset 17, jusqu'au chapitre 24, verset 22, plusieurs proverbes viennent d'autres sages qui étaient très expérimentés, mais dont les noms ne nous sont pas donnés. Donc, il n'y a pas que les proverbes de Salomon dans le livre des proverbes. Les plus nombreux de ces proverbes viennent de Salomon. Mais notez qu'il y a dans ce livre, et j'ai cité les passages, chapitre 22, 17 à 24, 22, ce sont d'autres auteurs, des sages expérimentés, mais dont les noms nous sont inconnus. Mais ce qui compte, c'est que Dieu les connaît. Dieu connaît ces hommes. Puis, viennent encore les paroles d'autres sages. Chapitre 24, versets 23 à 34. Il est parlé là de paroles d'autres sages. Puis, vous avez dans les chapitres 25 à 29, eh bien, nous sommes de nouveau mis en présence de proverbes de Salomon, mais qui furent recueillis par des gens de la cour de quel roi? Ézéchias, qui était un roi pieux, qui régnait combien de temps après Salomon? Environ 300 ans après. Il y a eu des sages qui ont recueilli des proverbes de Salomon que vous trouvez dans les chapitres 25 à 29. Après quoi, pour ceux qui ont déjà lu le livre, vous trouvez les paroles d'Agur, qui est appelé le fils de Jaquée. Chapitre 30, versets 1 à 33. Puis, les paroles que Lémuel, qui était un roi, reçut de sa mère. Et enfin, au chapitre 31, versets 1 à 9, donc un exemple d'instruction d'une mère à son fils, et ce livre se termine par quel portrait? Le portrait de la femme vertueuse, de la femme vaillante, à partir du chapitre 31, versets 10 à 31. Et cette femme vertueuse, cette femme vaillante, l'Esprit nous fera découvrir, oui, que c'est bien ce qu'une femme devrait être, mais que cette femme représente la sagesse en pratique. La sagesse en pratique, eh bien, nous pouvons la discerner dans le portrait de cette femme vaillante. En contraste avec la sagesse, représentée par la femme vertueuse, nous rencontrerons dans ce livre la corruption du monde, qui prétend aussi être une sagesse. Cette corruption du monde est figurée par trois femmes. La prostituée, l'étrangère, nous aurons l'occasion de nous arrêter sur cela, et l'adultère, qui dresse des pièges sur le chemin des fils de la sagesse. Cette corruption initiale dans laquelle le monde est plongé, cette corruption introduite par l'union coupable du peuple de Dieu avec le monde idolâtre et étranger à la vie de Dieu. Nous allons essayer de discerner le sens profond des proverbes. Alors, ce que nous venons de voir nous montre qu'il y a plusieurs façons de diviser ce livre. Les uns l'ont divisé en trois parties. C'est ce qu'a fait le français courant, pour ceux qui lisent le français courant. Ils vous diront que le livre se divise en trois parties. D'autres l'ont divisé en quatre, c'est ce qu'a fait Segond. D'autres en cinq. André Chouraki, lui, il l'a divisé en huit parties, comme l'avait fait avant lui la Bible annotée de Lausanne. Mais peu importe la manière dont on divise ces textes, c'est pas ça qui compte. Et c'est pourquoi nous revenons à notre première pensée, c'est que le meilleur commentaire des proverbes, c'est de les mettre en pratique. Alors, que savons-nous de Salomon, ce fils de David, roi d'Israël? Quand vous pensez à Salomon, qui est-il? Bon, le texte nous le dit. Fils de David. Qui était sa mère? Bathsheba. Alors, combien David a-t-il eu de fils de Bathsheba? Deux. Le premier, né de l'adultère. Il avait volé la femme d'Uri le Héthien. Il a couché avec elle. Elle est devenue enceinte. Vous savez toute cette histoire, il a fait tuer son mari dans la guerre par main interposée. Et qu'est-il arrivé à ce premier enfant? Il est mort. David était absolument brisé par la mort de cet enfant. Il avait supplié Dieu qui lui avait pardonné sa faute, mais de guérir cet enfant. Et Dieu n'avait pas voulu. Il avait repris cet enfant, non pas parce qu'il n'aimait pas cet enfant, mais parce que il fallait que David connaisse une sanction sur son péché. Dieu pardonne, mais les conséquences de nos inconséquences, eh bien, nous devons les supporter. Et c'est peut-être plus dur de voir son enfant mourir que de mourir soi-même. Et nous lisons dans le chapitre 2 de Samuel, verset 12, parce que c'est quand même bien important. Quand David apprend que son enfant est mort, après qu'il ait tant jeûné, tant prié, il demande à manger et il fait sa toilette. Alors ses serviteurs sont étonnés et il leur répond, lorsque l'enfant vivait, verset 22, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait, l'Éternel aura peut-être pitié de moi et l'enfant vivra. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Alors, il se sent aussi coupable vis-à-vis de Bathsheba. Et maintenant, Bathsheba est devenue sa femme légitime. Alors, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Que veut dire Salomon? Pacifique. Et il est ajouté qu'il fut aimé de l'Éternel. Alors, souvenez-vous bien de ça. Salomon, dès sa naissance, a été aimé de l'Éternel. Mais qu'a fait David? Il le remit entre les mains de qui? De Nathan le prophète. Ce prophète que Dieu avait envoyé pour dire à David, ce que tu as fait déplaît aux yeux du Seigneur. Tu es cet homme qui a commis un crime. Alors, David a été profondément touché par Nathan. Eh bien, c'est à ce Nathan, homme de Dieu, que David remet l'éducation de son fils, parce qu'il ne savait pas éduquer les enfants. Vraiment, notre cher David a fait faillite en tant que père. Vous voyez ce qu'il est dit dans le premier livre des Rois, au chapitre premier, au sujet d'un autre de ses fils qui s'appelait Adonija. Il est dit au verset 6 du chapitre 1er du premier livre des Rois, au sujet de cet Adonija, fils de Haggith, d'une de ses femmes, qui s'était laissé emporter par l'orgueil et qui a voulu devenir roi. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» David n'avait jamais posé une question à son fils. Il le laissait faire. Il ne lui avait jamais fait de reproche. On arrête peut-être quelques instants pour que vous puissiez changer de côté, si vous avez trop chaud. Était le second fils de Bathsheba. Et quand il a été remis entre les mains de Nathan, nous apprenons que Nathan lui a donné le nom de Yedidia. Et ça veut dire aimé de l'Éternel ou chéri. Littéralement, c'est chéri de l'Éternel. Et c'est Nathan le prophète qui a présidé à l'éducation de Salomon. C'est quelque chose de remarquable, hein, d'être instruit, d'avoir comme précepteur un prophète. Et c'est par Nathan, on peut le dire, que Bathsheba et Salomon eurent la vie sauve. Et que David, devenu vieux, tint sa promesse qu'il avait faite à Bathsheba. Vous savez que quand David fut vieux, cet Adonija, l'un de ses fils, a voulu monter sur le trône. Il était orgueilleux et il n'a pas consulté son père. Est-ce que c'est moi qui dois te succéder? Non, il a fomenté une révolution de palais et il s'est fait couronner roi à l'insu de David qui était malade, qui était âgé, mais il n'était pas tellement âgé quand on pense à d'autres hommes de Dieu. David, quand il est mort, avec quel âge? 70 ans, c'est pas vieux. Salomon, lui, n'atteindra pas même cet âge-là. Il mourra, tout sage qu'il était, à 60 ans. Comme nous aurons l'occasion de le voir, et nous saurons pourquoi il est mort si jeune. Et de ce Salomon, nous apprenons ensuite une autre chose. Donc, aimé de Dieu dès sa naissance, éduqué par un prophète, sachant que son père le destine à lui succéder, puisque c'est une promesse, Nathan nous l'apprend, que David avait fait cette promesse à Bathsheba, que c'est Salomon qui régnerait sur Israël. Et quand il a été alors couronné roi, et que la révolte de son frère a été éliminé, eh bien, nous lisons au sujet de Salomon que Dieu lui avait donné une sagesse et une intelligence immense et que il avait des connaissances multipliées pour employer un texte du chapitre 4 des Rois, du premier livre des Rois, des connaissances multipliées comme le sable de la mer. Vous pouvez lire ce texte au chapitre 4 pour que vous ayez une idée de qu'était l'auteur de ces proverbes. Verset 24 du chapitre 4 du premier livre des rois. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsac jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Il avait la paix de tous les côtés alentour. Et je passe au verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant les Rachites, plus qu'aimant Calcol et Darda, les fils de Makol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Et c'est au verset 32, il a prononcé combien de proverbes? 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Combien est-ce qu'on en a des cantiques de Salomon? Il en a composé 1005. On en a au moins un qui est appelé le cantique des cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban, peut-être aussi ceux de Siderlot, jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre, qui avait entendu parler de sa sagesse. Et cette sagesse de Salomon, on la voit surtout au début de son règne, dans les décisions qu'il dut prendre pour trancher certaines questions difficiles dans son royaume. Mais alors, d'où venait la sagesse de Salomon ? Je voudrais vous souligner encore une autre chose. Comme roi, Salomon, selon la loi de Moïse, avait dû écrire pour lui, dans un livre, une copie de la loi de Moïse. Et qu'est-ce qu'il est dit qu'il devait faire? Donc copier toute la loi de Moïse. C'était la tâche d'un roi. Alors, vous avez cela dans le chapitre 17 du Deutéronome. Je vous lis cette règle au sujet de la royauté. Et vous pensez bien que Nathan avait veillé à cela. Alors, vous voyez quelle formation Salomon a eue dans sa jeunesse. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset 14 du chapitre 17 du Deutéronome. Lorsque tu le posséderas, et que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Il avait dû copier ça, quand il était jeune. Combien est-ce qu'il en a eu, finalement? 1000. Hein? Vous rendez-vous compte? Ce qu'on peut écrire, ce qu'on peut savoir, et faire exactement le contraire. 300 femmes et 700 concubines. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, je vois Salomon écrire ça, afin que son cœur ne se détourne point, il avait écrit cela, et qu'il ne fasse pas des grands amas d'argent et d'or, qu'il n'ait pas beaucoup de chevaux aussi. Qu'est-ce qu'il a dit de Salomon? on va lire tout à l'heure. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui, et y lire une fois par semaine, tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Alors, quand on dit « d'où venait la sagesse de Salomon ?» Eh bien, parce que Dieu l'aimait, Dieu lui avait donné Nathan pour l'instruire, il devait faire cette copie de la loi, y lire tous les jours de sa vie, et nous apprenons ensuite que Dieu l'avait encore favorisé par deux fois, par des apparitions particulières. La première fois, c'était au début de son règne, avant la construction du temple. Un roi, chapitre 3, versets 3 à 15, nous lisons que à Gabaon, le Seigneur lui est apparu, chapitre 3, verset 15. Salomon, verset 5, pardon. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Elle lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Donc il était très jeune, il avait peut-être 20 ans. Et Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être compté ni multiplié, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? » Qu'est-ce qu'il est dit au verset 10 ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Puis je te donnerai, outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. » Mais ça n'est pas arrivé. Mais vous voyez comme il est parti, Salomon. Il avait toutes les possibilités au départ. Il a été l'instrument pour bâtir le temple. Et quand le temple a été bâti et que la dédicace du temple a eu lieu, nous lisons dans le chapitre 9 du premier livre des rois, toujours, verset 2, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et puis, de nouveau, le Seigneur l'exhorte. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Mais, si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si on plaçait qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux et se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel fait venir sur eux tous ces maux. Alors donc, Salomon était vraiment un homme instruit du chemin dans lequel il devait marcher. Et si vous voulez voir ce qu'il est dit de la sagesse de Salomon, vous lirez le chapitre 9 du deuxième livre des Chroniques, versets 1 à 12, la consultation de la reine de Sheba. Si vous voulez connaître la richesse de Salomon, vous lirez au chapitre 9, toujours de ce deuxième livre des Chroniques, ou au chapitre 10 du premier livre des Rois. Mais si vous voulez savoir aussi quelle fut l'apostasie de Salomon, bien prenez le chapitre 11 de ce premier livre des Rois. Chapitre 11. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Ammonites, des Moabites, des Édomites, des Sidonéennes, des Héthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut ces nations, à ces nations, que s'attacha Salomon, entraîné par quoi? Par l'amour. Hein? C'est actuel, ça. Tout est possible, tout est permis. C'est par amour. Entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ça veut dire que je suis vieux, hein? Je suis plus âgé que Salomon. Il y a 8 ans qu'il était mort. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu combien de fois ? Deux fois, c'est dit, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi je vous cite ces passages, parce que c'est souligné, il lui était apparu deux fois. Et Job nous dit, enfin par la bouche d'Élihu, le livre de Job nous déclare, Dieu parle une fois, deux fois, et l'on n'y prend pas garde, dans un songe, dans une vision de nuit. Salomon avait été visité ainsi. Il n'y a pas pris garde. Malgré toute cette éducation spirituelle faite par Nathan. Verset 10. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Ce fils de Salomon s'appelait comment ? Roboam. Roboam. Et Roboam était né donc dans la jeunesse de Salomon, puisque il a commencé à régner quand il avait 42 ans, Roboam. Son père étant mort à 60 ans, donc Salomon l'avait eu quand il avait environ 20 ans. Alors, Roboam avait eu un enseignement, le bon enseignement de Salomon, puisque son père était encore fidèle au début. Mais après, l'exemple de son père a déteint sur le fils. Et ça, ce fut une catastrophe. Vous voyez, mes chers amis, que tout ce livre que nous allons étudier, les Proverbes, a quelque chose à nous dire. La mort de Salomon, vous l'avez au verset 41. Les restes, le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des Actes de Salomon, un livre que nous n'avons pas ? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël, puis Salomon se coucha avec ses pères. Il fut enterré dans la ville de David, son père, et Roboam, son fils, régna à sa place. Alors donc, nous avons vu maintenant qui était l'auteur de ce livre des Proverbes. Alors, considérons maintenant, en peu de temps, le dessein et le but de ce livre. Dans ce livre, le proverbe, comme nous l'avons déjà dit, est une courte sentence qui s'appuie sur l'observation et qui s'exprime en termes ramassés et souvent pittoresques. Il vise à guider notre conduite. Il nous donne vraiment un exemple. Alors, ces proverbes, Salomon les donnait pour connaître la sagesse. Pour connaître la sagesse. Alors, vous voyez tout de suite de quelle connaissance il est question. Et j'espère que nous comprenons bien le mot connaître. Connaître, et c'est notre but dans ce camp, c'est pas n'importe quelle connaissance. Connaître, ce n'est pas seulement savoir. Connaître, c'est vraiment pénétrer, c'est expérimenter, c'est comprendre, c'est éprouver. Et la sagesse, qu'est-ce que c'est? La sagesse, c'est une connaissance juste des choses. Mais dans l'hébreu, il y a six mots qui sont employés pour le mot sagesse. On le trouve même au pluriel, les sagesses. Alors, six mots qui sont synonymes. Il y a donc sagesse, il y a discernement, prudence, réflexion, bon sens et connaissance. C'est comme ça qu'on l'a traduit, ces mots, en français. Donc, la sagesse, c'est un discernement, c'est une prudence, c'est une réflexion, c'est un bon sens, c'est réellement une connaissance juste des choses. Mais il y a une définition que je trouve simplement dans Job, au chapitre 28, où il est parlé de cette recherche de la sagesse. Et au verset 28, il est dit, la sagesse, qu'est-ce que c'est? La crainte de l'Éternel. C'est là la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est cela la sagesse. Voilà une définition tout à fait biblique. Puis il est dit que c'est pour donner aussi de l'instruction. L'instruction, qu'est-ce que c'est? Ben, l'instruction, c'est ce qu'on apprend. C'est ce qui est vraiment utile. C'est ce qui est indispensable de savoir. C'est ce qu'on reçoit, l'instruction, par l'étude. C'est ce qu'on reçoit d'un maître. Et au fond, Salomon a reçu son instruction de la part de qui? De Nathan, prophète de l'Éternel, qui avait les paroles de l'Éternel. C'est ce qu'il a reçu en étudiant la loi de Moïse. L'instruction, eh bien, c'est l'ensemble des principes inculqués au fils par un père et par une mère. Et cette instruction comprend aussi la discipline. Et j'aime à souligner cela. Dans l'instruction est comprise aussi la discipline. Puis, il est dit que c'est pour donner aussi l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est la faculté de connaître, de comprendre, de discerner. C'est cette capacité de saisir, de s'approprier les pensées de Dieu. Et pour moi, je reviens aussi à une définition sur l'intelligence de Job, chapitre 28, verset 28. S'il dit la crainte de l'Éternel, c'est là la sagesse. Il définit l'intelligence en disant se retirer du mal. C'est cela, l'intelligence. Quelqu'un d'intelligent, c'est pas simplement quelqu'un qui a de la matière grise. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait se retirer du mal. Et dans les Romains, il est dit que les hommes sont sans intelligence. Ils ne recherchent pas Dieu, puis ils ne se retirent pas du mal. Mais se retirer du mal, si vous voulez avoir une bonne définition de l'intelligence, eh bien, c'est se retirer du mal. Mais pour se retirer du mal, il faut savoir, il faut le voir, le mal. Il faut dire, mais ça, c'est mal. Alors, au lieu de le faire, je m'en retire. Donc, le but de ces proverbes, c'est que nous puissions recevoir de l'instruction, il est dit des leçons de bon sens dans la sagesse, que nous soyons des gens équilibrés, et non seulement des leçons dans la sagesse, mais dans la justice, c'est-à-dire que nous sachions ce qui est juste, ce qui est équitable, dans le juste jugement, que nous ayons une juste appréciation de toute chose, et finalement dans la droiture. C'est-à-dire que nous connaissions vraiment ce qui est vrai et que nous soyons des hommes sans fraude. Qu'est-ce qui a été défini comme un homme sans fraude par Jésus lui-même, Nathanaël. Hein. Voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. C'est cela qui était le but de l'auteur des Proverbes, de nous donner ce bon sens, cette sagesse, cette justice, cette droiture. Et alors, à qui s'adressent les Proverbes? Il est dit aux simples. Qui sont ces simples? Littéralement, c'est les naïfs, les candides, mais aussi ceux qui sont ouverts, hein, mais qui n'ont pas d'expérience, mais qui ne sont pas fermés à l'expérience, ils sont ouverts. Au fond, c'est des petits-enfants. Hein. Un enfant, il est simple. Il est ouvert. Il va croire ce qu'on lui dit. Mais c'est des gens qui sont sans expérience. Eh bien, voilà, c'est écrit pour des gens qui n'ont pas d'expérience. Peut-être que nous disons, ben moi, je n'ai pas d'expérience non plus. Eh bien, le Seigneur veut nous la donner. C'est écrit pour nous, pour nous donner de l'intelligence et de la sagesse. Nous qui sommes peut-être encore des simples. Il veut aussi nous donner de la prudence. Qu'est-ce que c'est que la prudence? C'est cette vertu qui nous fait prévoir le danger. Puis il est dit aussi de la réflexion. Qu'est-ce que c'est que la réflexion? C'est le retour de la pensée sur elle-même, en vue d'examiner plus à fond une idée, une situation, un problème. On réfléchit avant d'agir. Hein? On avait une pensée, mais on revient sur cette pensée. C'est ça, la réflexion. Et puis, on médite, puis on prend ensuite la décision, mais on a réfléchi. Alors l'auteur s'adresse donc aux simples. On va retrouver 13 fois le mot simple. Et il voudrait que les simples, justement, acquièrent de la prudence, du discernement. Qu'est-ce qui a manqué de prudence? La première femme, au jardin d'Éden, elle a manqué de prudence. Elle n'a pas su peser les paroles de l'ange déchu. Vous avez cela dans Genèse 3, verset 1. Et Jésus lui-même enseignait qu'il nous fallait être prudents comme des serpents. Matthieu 10, verset 16. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, il est parlé justement de ce manque de prudence qu'a eu Ève et qui s'est laissé séduire. Mais ce n'est pas seulement aux simples qu'il s'adresse, mais aussi aux jeunes gens. Et il voudrait que ces jeunes gens acquièrent de la science. Qu'est-ce que c'est que la science? C'est la connaissance. La science est vraiment un ensemble de connaissances. Et nous avons vu que Salomon était capable de parler d'une foule de choses. C'était réellement un scientifique. Et il voudrait aussi que les jeunes gens aient des connaissances étendues de la réflexion. Puis, c'est aussi adressé aux sages. Parce que le sage, c'est donc l'homme qui est déjà éclairé, qui peut déjà peut-être être un savant, mais vous avez toujours, on vous l'a dit souvent, qu'un savant, c'est un homme qui est toujours prêt à apprendre davantage. C'est ça la qualité d'un vrai savant. Un savant, c'est un homme qui reconnaît qu'il ne sait rien en comparaison de tout ce qu'il ignore. C'est vrai. C'est ça la vraie science. On ne sait rien. On croit avoir tout un bagage de connaissances et pourtant on ne sait rien. Eh bien, si on est vraiment sage et s'il y a parmi nous de ces sages, eh bien, qu'est-ce qui leur arrivera? Pendant ce temps, ils croîtront en connaissance et en science. Et s'il y a un sage, il est dit qu'il écoutera. Hein? Il écoutera. Et ça, c'est le grand mot de d'Israël. Verset 5. Que le sage écoute. Ça, c'est le grand mot d'Israël. Le schéma Israël, c'est écoute Israël. Hein, chapitre 6 du Deutéronome. Et Samuel reçoit du Seigneur, dans le chapitre 15 du premier livre de Samuel, verset 22, que écouter, c'est meilleur que sacrifice. Voici, écouter est meilleur que les sacrifices. Écouter. Puis, Luc, chapitre 8, verset 18, Jésus disait aussi, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Et vous pourriez prendre des exemples d'hommes qui étaient déjà sages, mais qui ont écouté. L'eunuque d'Éthiopie. Comprends-tu ce que tu dis? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'explique? Philippe a expliqué et l'eunuque a écouté. Et ce fut son baptême. Acte 8, verset 27 à 39. On pourrait voir dans les actes Serge Paul, qui était proconsul, quand il a entendu le message de Paul, il est dit, il a écouté et il s'est converti. Les Béréens, par exemple, dans Acte 17, ce sont des gens qui écoutaient ce que Paul disait, mais qui contrôlaient les paroles de Paul. On peut prendre aussi Apollos. Apollos était un homme très éloquent. Mais il s'est laissé enseigner par qui? Par une femme, par Priscilla, qui lui a communiqué avec son mari Aquilas, plus exactement, certaines vérités, et il a écouté. Et il a grandi en connaissance. Lydie, qui était une femme distinguée, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, mais qui était installée, qui avait une maison de commerce à Philippe, de Macédoine, il est dit qu'elle a écouté. Et elle fut attentive aux choses que Paul disait. Elle s'est donnée au Seigneur. Puis c'est là que la première église a eu son commencement. Alors vous voyez, le sage augmentera son savoir, il croîtra en science, il acquérera du sens, de l'habileté, pour saisir la signification, pour comprendre un proverbe, une allégorie, une énigme. Et nous avons vu ce qu'était un proverbe, une sentence, une vérité d'expérience. Une allégorie, c'est une parabole, un récit qui cache un enseignement, une énigme. C'est une chose à deviner, une charade, une description obscure. Et en conclusion, tout cela s'est écrit en vue de savoir se diriger, se conduire dans la vie pratique. Et un dernier mot, pour vous montrer que ces proverbes, même s'ils n'ont pas été mis en pratique par Salomon, nous devons les suivre. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit cela d'une façon très claire. Il croyait à l'inspiration du livre des Proverbes. Au chapitre 2 de la deuxième épître de Pierre, il est dit ici, parlant de celui qui retourne en arrière, après avoir connu la vérité, il a dit « Ce que dit le proverbe véritable leur est arrivé », verset 22. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi lui-même et la truie lavée a se vautré dans le bourbier. Et là, il cite Proverbe 26, verset 11. Elle dit le proverbe véritable. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, eh bien, plusieurs fois, le livre des Proverbes est cité. Dans les Romains, dans l'Épître aux Hébreux, dans l'Apocalypse, dans l'Épître de Jacques, dans la première de Pierre aussi. Et dans cette deuxième épître de Pierre. Nous nous arrêtons là. C'est donc un peu spécial ce matin, c'était l'introduction générale. Et nous résumons tout cela en disant, mais maintenant nous connaissons qui est l'auteur des proverbes, enfin des principaux proverbes. Le but de ces proverbes et à qui s'adresse-t-il? Est-ce que nous nous sommes sentis interpellés? Est-ce qu'il y a une conclusion qui s'impose pour vous? Comment? Besoin de savoir, oui, mais Salomon savait, et c'est ça qui m'effraie, qui me fait trembler. Hein? C'est le besoin de connaître, mais de cette vraie connaissance. Une connaissance qui n'est pas une information des choses. Parce qu'on peut être informé dans tas de choses. Salomon était informé sur toutes choses. Et il donnait toute espèce de définition. On venait de loin et il renseignait les gens. Et on parlait de lui. Et pourtant, il n'a pas vécu selon ce qu'il a enseigné. Il n'a pas mis en pratique. Et pourtant, vous voyez, il était aimé du Seigneur. Il était visité par le Seigneur. Tout le monde n'a pas cette grâce d'avoir des songes comme lui a eu. Et d'entendre la voix du Seigneur. Et oui, je pourrais vous montrer, et je voudrais que ça reste dans Néhémie. Je trouve un verset qui est fantastique. Quand Néhémie essaye de faire revenir Israël, qui est rentré de la captivité, le résidu a plus de sagesse, et qu'il voit que ces hommes ont pris aussi des femmes étrangères, eh bien, il en est absolument navré, et il leur fait des réprimandes. Voyez le chapitre dernier du chapitre de Néhémie 13, verset 25, il dit, voyez verset 23, « À la même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlait l'asdodien. Elle ne savait pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes. Je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux. » Je ne dis pas de faire ça. « Je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. » Et qu'est-ce qu'il dit? N'est-ce pas en cela qu'a péché qui? Salomon, roi d'Israël. Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Bien que le Seigneur nous parle et que nous puissions faire notre profit de cette parole. Ce soir, alors, nous continuerons notre étude. Mais je vous demande de penser aujourd'hui vraiment à ce que nous avons vu et de demander à Dieu que cela nous serve d'exemple tous les jours de notre vie. Dieu notre Père, tu viens de nous montrer ce qu'est notre cœur et combien nous pouvons être ingrats alors que
Tu nous bénis dès notre enfance. Tu nous donnes tant de signes de ta grâce. Tu fais tant pour nous. Tu nous as déjà tant donné. Saisis-nous par ton esprit. Et que dès le début de ce temps, nous puissions te prendre au sérieux et entrer dans cette crainte du Seigneur, qui n'est pas la peur de Dieu, mais la crainte de déplaire à celui qui nous a tellement aimés et qui nous a tout donné. Renouvelle notre affection pour toi, Seigneur Jésus, et que nous te soyons fidèles par amour, uniquement par amour. C'est notre prière ce matin. En Jésus.